Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes vocastes, le podcast sur le monde du broadcast et du podcasting. Comme à chaque début de mois, nouvelle émission sur les actualités, innovations et histoire de la radio. Bienvenue.
Des ondes vocastes.
Un épisode qui s'annonce encore une fois passionnant, car dans un instant, nous parlerons des podcasts produits par le groupe TF1. Encore un bel exemple de la convergence des médias. Nous parlerons des podcasts LCI et surtout de l'offre sous la marque TF1 avec Julien Laurent, qui est responsable du marketing digital de la branche info du groupe TF1 LCI. Juste après, on enchaînera avec la première partie de notre série sur l'histoire de Fun Radio. Avec Olivier Audoux de Choupe.fr, nous recevrons Eric Péchadre, qui est un des trois fondateurs du réseau. Il a quitté le groupe il y a maintenant près de 25 ans, mais il reviendra pour nous sur les coulisses de la création de Fun, et je vous promets que vous allez apprendre certaines choses très intéressantes qui ne sont évoquées nulle part ailleurs. Un entretien à ne pas rater. Les parties suivantes sur l'histoire de Fun seront dans les prochains épisodes des Ondes Vocastes, mais si vous êtes impatient d'écouter la suite, vous pouvez souscrire à Des Ondes Vocastes Premium pour écouter en avant-première la deuxième partie de notre série. Rendez-vous sur premium.vocast.fr. Et on commence donc l'émission avec un focus sur les podcasts du groupe TF1, un zapping des différents contenus produits avec une analyse sur la stratégie associée. Tout de suite, c'est le tour des ondes en 80 tours.
Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours.
Vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes déjà tombé sur des podcasts comme la Story 50 Minutes Inside avec Nico Salegas pour TF1 ou Happy Work pour LCI. Et peut-être que, comme moi, vous vous êtes demandé pourquoi le groupe TF1 se met à produire des podcasts. Vous vous êtes demandé pourquoi ils se mettent à l'audio. Eh bien, justement, on va parler de ça avec Julien Laurent, qui est responsable du marketing digital de la branche info du groupe TF1 LCI. Bonjour Julien.
Bonjour Anthony.
Alors, c'est toi qui as mené l'initiative, c'est toi qui as proposé de se tourner vers les contenus exclusivement audio, et ça a commencé avec le podcast Impact Positif pour LCI dès 2018. Dans quel contexte et pour quelle raison cette série d'entretiens sur les bonnes initiatives sociétales a-t-elle été créée ?
Ah, c'est une histoire intéressante parce qu'elle est l'illustration d'un projet d'entrepreneuriat qui devient un vrai projet groupe. Moi, je suis passionné, je crois comme toi, depuis toujours par le média audio, bien que travaillant à la télé. Et ça fait longtemps que j'écoute des podcasts et dans mon métier qui consiste concrètement à fabriquer des offres numériques pour l'info, le podcast, ça me travaillait. Je me suis appuyé en fait sur une initiative de la direction RSE du groupe Bouygues qui voulait nous faire réfléchir au sein de la direction de l'info sur un média, on va dire, positif. Et on a cherché quel média frugal on pourrait rapidement mettre en place pour le développer. Et puis, très vite, l'idée du podcast, elle s'est imposée. Et on s'est appuyé en particulier sur la personnalité de Sylvia Amicon, qui est une journaliste de la rédaction d'LCI, qui traite de ces sujets, donc de l'impact positif, donc de ce qu'on appelle les changemakers, des gens qui mènent des projets à impact positif sur la société et sur le monde, pour monter ce premier épisode. Et puis, c'est devenu un programme pérenne que le groupe a soutenu et qui a ouvert finalement le sillon des podcasts chez TF1.
Il y a Future & Co, c'est ça, sur les progrès technologiques et scientifiques. On a le podcast Happy Work, tourné plutôt vers le bien-être et le développement personnel. Ou même le Grand Bain de l'écho avec l'éditorialiste maison, Pascal Perry. Et on en écoute justement un extrait.
Bonjour chers amis de l'économie, je m'appelle Pascal Perry, bienvenue dans mon podcast Le Grand Bain de l'écho. Je propose d'éclairer votre route, pouvoir d'achat, fiscalité, politique publique, consommation ou stratégie d'entreprise. Dans ce monde incertain et ambigu, je vous promets de simplifier ce qui est complexe sans en réduire le sens. Alors mettons-nous en route dès maintenant.
Alors, podcast très sympa, hein, ce podcast Le Grand Bain de l'écho. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Pascal Perry, vous avez produit un podcast de marque pour HSBC qui s'appelle Les Nouvelles Voies de l'économie. Alors du coup, la finalité, c'était ça pour LCI, d'avoir une vitrine publique et de tenter le modèle éditeur-producteur, c'est-à-dire produire pour des tiers.
Alors, avoir une vitrine publique, nous, notre objectif premier, d'abord, c'est d'être un bon éditeur, c'est-à-dire de créer des podcasts qui sont et des programmes qui sont singuliers, qui vont toucher des audiences. Une vitrine publique, certes, mais une vraie qualité de travail d'éditeur. Et par ailleurs, oui, on pense que c'est un modèle qu'on peut exporter et qu'on peut proposer à d'autres et à des partenaires. Et on l'a fait avec quelques partenaires et pour qui on a produit des podcasts de marque ou des podcasts d'entreprise. Et en particulier, tu as raison, avec HSBC et là où c'est Pascal Perry qui prête sa voix pour parler des transformations des modèles économiques dans un contexte de développement durable.
J'avais noté aussi le podcast Les Midis de la Connaissance pour Aviva, mais c'est vraiment fait par la direction de l'info, donc dans ta direction à toi, et c'est dissocié du pôle numérique de TF1, c'est-à-dire que c'est pas Unify, enfin le Vertical Station qui produit ça, c'est bien vous quoi.
C'est bien nous, les synergies vont pas jusque là avec le groupe Unify et typiquement Vertical Station a pu produire, je pense, des podcasts de marque. Mais les moyens sont pas mutualisés à ce stade-là de l'histoire avec Unify.
Alors j'avais cru comprendre qu'en consolidant tous les podcasts LCI, il y a eu entre 700 000 et 800 000 écoutes en 2019, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors quel podcast rencontre le plus de succès ? Est-ce qu'il y a un épisode en particulier qui a bien marché ?
Le podcast qui marche très fort, et je pense qu'il est vraiment signe de l'ère du temps, c'est Happy Work, qui a beaucoup d'impact et puis qui est très très activable. On est assez fiers de ce partenariat avec Gaël Châtelain.
Alors pour expliquer, Happy Work, c'est des entre guillemets des capsules de développement personnel où c'est Gaël Châtelain qui va donner des conseils.
C'est ça, tous les lundis, c'est des choses activables immédiatement pour être heureux au boulot.
Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un podcast fonctionne ? Est-ce que c'est sur le nombre de lectures ? Est-ce que vous regardez les stats, par exemple, d'Apple Podcasts ou Spotify sur les taux de complétion ? Sur quoi vous basez, vous ?
Alors, on se base évidemment sur les taux de complétion sur Apple Podcasts parce que c'est le signe qu'on fait du bon contenu qui est utile aux gens. En l'occurrence, les taux de complétion, ils sont très bons, donc on est ravis. Et on s'intéresse autant au volume qu'à la croissance et à la dynamique qui se crée autour des programmes. Et jusqu'à présent, toutes les dynamiques ont toutes été très positives, puisque globalement, on voit bien que la construction de l'audience d'un podcast chez nous, c'est entre 15 et 30% de progression tous les mois.
Mois après mois, vous avez 15 à 20% d'écoute en plus.
Environ, ouais. Alors évidemment, c'est pas une règle, c'est comme je te dis ça, c'est pas scientifique au moment, et c'est pas vrai à tous les coups, mais c'est la grande masse que nous on voit.
Alors en réponse à la crise liée au Covid-19, le 9 avril 2020, vous lancez On déconfine l'info. Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI répondent aux questions des Français sur la santé, l'économie, la vie quotidienne durant la période de crise. Alors les épisodes durent entre 20 et 30 minutes, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que On déconfine l'info, c'est un sacré défi, puisque le groupe TF1 se met à produire pour la première fois un podcast quotidien. C'est un gros boulot. Est-ce que c'est grâce aux expériences précédentes que vous avez pu vous lancer dans un tel projet ?
Oui, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas passé les étapes précédentes, c'est-à-dire d'apprendre à non seulement produire du contenu, mais en plus à faire tout ce qui va autour. C'est quand on crée un podcast, il faut apprendre à maîtriser l'écosystème de distribution, ils vont les hébergeurs, etc. Tout ça, on a pu le faire très vite parce qu'on avait l'expérience pour le faire, et après il restait plus qu'à produire le contenu. Le contenu, il a été produit en mode confinement quelque part, puisque c'est Cédric Ingrand qui a une vraie expérience de radio, qui a une voix, qui était relativement équipée, qui l'a produite chez lui. Le fait est que spécialiste de la tech, il avait du relativement bon matériel et d'excellents micros, et le tout donne une qualité de production qui est très très correcte.
Oui, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on fait des podcasts originaux que forcément on doit ne pas se concentrer sur l'audience, et il faut quand même un minimum de qualité, un minimum de travail et de rigueur. Alors je te propose qu'on écoute un extrait de On déconfine l'info pour ceux qui n'ont jamais entendu, pour se faire une idée.
Juin 2020, on déconfine l'info, Cédric Ingrand. Au sommaire aujourd'hui, vous pensiez avoir fait du télétravail pendant 10 semaines de confinement, eh bien, vous aviez tort, ou du moins, vous n'avez pas encore goûté au vrai télétravail. C'est ce que nous dira l'une des autrices du Télétravail pour les nuls, un livre qui sort pile poil au bon moment. On verra aussi comment le télétravail pourrait bien remettre certaines villes moyennes à la mode. Est-on passé en quelques semaines d'une pénurie de masques à la situation inverse ? C'est ce qu'expliquent aujourd'hui des entreprises qui les produisent et se retrouvent avec des stocks d'invendus. La faute à des administrations et des entreprises qui se fournissent désormais à l'étranger. Une histoire de faux.
« très bien produit, hein, On déconfine l'info, que vous pouvez quand même continuer de retrouver et écouter sur toutes les plateformes de podcast, même si maintenant le sujet semble plus spécialement d'actualité. Alors finalement, les expérimentations sur LCI semblent avoir été satisfaisantes, puisque le groupe a lancé en mai 2020 une offre pour TF1, alors une suite de déclinaisons en podcast des programmes phares de TF1, 50 minutes Inside Last Story avec Nico Salagas, Carpool Karaoke avec Camille Combal, Vie d'aventure avec Denis Brognard, mais aussi C'est un complot avec Christophe Pourceillet et Chronique criminelle racontée par Jacques Pradel. En juin, une sixième déclinaison voit le jour, Club Margoton, avec le journaliste de Téléfoot, Grégoire Margoton. Alors, des podcasts avec une audience visée qui semble quand même plus large qu'avec les podcasts LCI. Est-ce que c'est une réponse aux podcasts comme Capital ou E égale M6 au carré lancés par RTL Originals du groupe M6?
Alors, c'est pas une réponse à la démarche RTL M6. Pour nous, on le voit comme une démarche logique. En fait, aujourd'hui, les grandes marques médias, elles sont toutes par nature multiformats. Concrètement, aujourd'hui, la radio fait de la vidéo sur son site, donc il n'y a pas de raison qu'un média audiovisuel ne fasse pas de l'audio et du print. Nous, quand on fait LCI.fr, on écrit des articles, on fait des podcasts et on produit des vidéos. Donc, logiquement, on en vient à l'audio, puisqu'il vient compléter le spectre des formats qu'on peut proposer pour toucher tous les publics.
Tu m'avais dit que c'était une autre direction qui s'occupait des podcasts de TF1. Toi, t'avais juste apporté de l'accompagnement et ton retour d'expérience avec ce que vous avez fait pour LCI. Est-ce que t'as eu des échos sur le lancement des podcasts de TF1? Est-ce que ça a été plutôt une réussite? Est-ce que c'est déjà à la hauteur des espérances internes? Est-ce que les premiers résultats sont encourageants?
Le projet, c'est un projet podcast groupe dans lequel l'initiative que j'ai menée, qui maintenant fait vraiment partie de notre activité au sein de la direction de l'info, est intégrée. Mais c'est pas moi qui pilote directement les podcasts TF1. Donc, je peux pas te donner l'ensemble des chiffres. De toute façon, l'initiative, on va dire le projet, il est quand même assez frais, hein. Donc, on a peu de recul. Ce qui est certain, c'est qu'on est très, très content du lancement. Ça a été lancé en plein confinement. On n'a pas arrêté le calendrier à cause du confinement. Je crois qu'au contraire, en plus, il y avait une assez forte demande de contenu à ce moment-là. Et les résultats sont très encourageants. Maintenant, on relèvera les compteurs à la fin de la saison 1 pour se dire on est vraiment totalement satisfait. Ce qui est sûr, c'est que l'écho est très positif à ce stade.
Chronique criminelle par Jacques Pradel, c'est assez surprenant car quand vous l'avez lancé, Jacques Pradel était encore sur RTL pour l'heure du crime. Et puis justement, si on compare avec son émission de radio, bon, les ressemblances ne manquent pas. Écoutez.
Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Troadec.
Le meurtre des Troadec. Cette affaire a tous les ingrédients d'un roman noir. Une famille entière qui disparaît, une scène de crime sanglante et des indices improbables semés par un suspect insaisissable. Le tout sur fond de mystérieux trésors en lingots d'or. Alors, que s'est-il passé dans la maison de cette paisible famille bretonne? Pourquoi les Troadec ont-ils été massacrés? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chronique criminelle.
Alors d'ailleurs, l'illustration du podcast était sous fond rouge. Il est maintenant sous fond jaune. C'est pour mieux distinguer les deux marques, je suppose, entre RTL et TF1. Est-ce qu'on peut imaginer un peu comme a fait M6 avec Capital, c'est-à-dire des émissions qui sont produites pour la télé où on prend que la bande son et ça en devient un podcast? Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose de ce genre-là ou pas? Notamment pour on peut imaginer tout ce qui est enquête criminelle, etc. Les reportages.
C'est tout à fait une piste et une hypothèse. On a fait le choix tactique d'apprendre d'abord à écrire et à produire pour cet écosystème avant de faire du replay audio. Il y a beaucoup de programmes dans le groupe TF1 qui passent entre guillemets en audio, et on pense notamment effectivement aux programmes d'info Aujourd'hui, rien n'est exclu.
En tout cas, pour être honnête, hein, au début, j'étais quand même un peu critique sur cette nouvelle offre lancée par TF1. J'étais un peu moins enjoué que sur l'offre LCI, car bon, le positionnement, il paraît un peu, on va dire, poussif. Ça fait un peu, on prend ce qui marche, on décline sous un nouveau format tendance, qu'est le podcast. Mais je me dis que au fond, c'est quand même malin de la part du groupe TF1. Et puis surtout, c'est que c'est très bon pour le secteur, car peut-être que grâce à TF1, de nouvelles personnes vont découvrir le podcasting. Alors, j'ai été par contre assez étonné sur la diffusion, les stratégies de distribution. Sur MyTF1, on ne retrouve que quelques extraits hein, en audiogramme en plus, qui a pas les liens vers les plateformes externes. Donc, j'ai été assez surpris que les podcasts ne soient pas en intégralité, voire même en audio augmenté, hein, c'est-à-dire avec des images, d'illustrations, des gros titres, sur le portail replay de TF1. Et puis surtout, j'ai été surpris qu'un acteur comme TF1 fasse le choix de perdre le contrôle entier sur son contenu en distribuant ses productions en podcast via un hébergeur externe, à savoir AudioMins. Pourquoi avoir fait ces choix technologiques, c'est-à-dire plutôt sortir les contenus du portail MyTF1 et utiliser une solution externe comme AudioMins?
Plutôt la non-entrée des contenus audio dans le portail MyTF1, c'est pas une vérité absolue. Et c'est quelque chose qui pourra tout à fait évoluer.
Ça veut dire que vous n'excluez pas, en fait, finalement, de bien intégrer les épisodes en intégralité sur MyTF1?
Évidemment. Et ce sera sans doute le cas bientôt.
Et concernant le choix technologique de prendre une société d'hébergement de podcasts externe, à savoir AudioMins?
Alors, sur ce choix-là, nous, on a beaucoup expérimenté à l'info. On a testé Libsyn, on a testé Pipa, qui entre-temps est devenu Acast, on a testé Ocha. On voit bien que l'écosystème de l'hébergement, d'abord, il est complexe, il est très mouvant. Et on a arrêté notre choix sur AudioMins dans le cadre du projet groupe. Pourquoi on a fait ce choix-là? D'abord parce que on trouve très sain de travailler avec des startups françaises. La deuxième raison, c'est que on connaît et on a une bonne relation avec les fondateurs et on sait que ce sont d'excellents professionnels. Et par ailleurs, on a pu rentrer avec eux dans une logique de co-construction.
Peut-être que vous n'excluez pas d'engloutir AudioMins peut-être à terme?
Alors, il est bien trop tôt pour en parler et je suis pas sûr que ce soit encore vraiment dans le radar de qui que ce soit.
Alors, en continuant de creuser le côté technique, je me suis rendu compte que les fichiers étaient servis via Soundcast également. Alors, Soundcast, c'est une startup accélérée par TF1 Media Lab, surtout utilisée comme ad server hein, pour l'offre de pré-roll audio des indés radio avec TF1 Publicité. Alors, on imagine la possibilité pour la régie de TF1 de vendre des pubs sur ces podcasts et voire même, pourquoi pas, hein, des packages combinant des audiences numériques du GIE, des indés radio et celle de l'audio du groupe TF1, non?
Oui, tout à fait. Nos podcasts, ils vont constituer une audience et bien sûr, à terme, il serait logique que ce bassin d'audience qu'on va constituer et à l'info et avec les programmes des podcasts TF1 plus les années radio fassent une offre globale qui soit à disposition de TF1 Publicité et des annonceurs.
Après, tu me confirmes que pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, vous ne monétisez pas encore puisque ben, voilà, l'audience n'est pas encore assez énorme. Vous avez quoi comme objectif d'audience pour pouvoir monétiser?
Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à avoir vraiment pas mal de demandes sur des choses assez intégrées, donc plutôt dans une logique de sponsor. Mais les premiers briefs, ils arrivent et je pense que d'ici quelques mois, on aura atteint la masse et les volumes suffisants pour que les premières campagnes tombent sur le réseau.
Du coup, voilà, vous n'excluez pas de faire qu'un seul modèle de monétisation. Vous pensez continuer à faire des podcasts de marque comme vous l'avez fait avec le podcast de la HSBC. Pourquoi pas faire aussi du sponsoring et de la pub classique en spot programmatique avec Soundcast?
Exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie demande aujourd'hui des entreprises de pouvoir s'exprimer à travers le podcast. Et ce modèle éditeur-producteur dont on parlait, on est tout à fait convaincu qu'il a du sens et on est organisé maintenant pour pouvoir le proposer à des partenaires. Et par ailleurs, on va rester sur notre métier historique qui est d'aller toucher des audiences de pouvoir, on va dire, mettre cette audience à disposition d'une régie et des annonceurs pour qu'ils puissent eux-mêmes remplir leurs objectifs.
Ben merci Julien d'être intervenu dans Des Ombres Cast. Et vous pouvez retrouver une synthèse de cet entretien sous forme d'article texte. Le lien est dans la description. Et tout de suite, on démarre notre série sur l'histoire de Fun Radio, deuxième partie de l'épisode, les archives.
Des Ombres Cast, les archives.
Première partie sur l'histoire de Fun Radio. L'histoire de Fun Radio est trop méconnue et pourtant passionnante, mais assez longue aussi. C'est pourquoi nous allons vous la raconter en plusieurs parties tout au long de l'été 2020. Vous retrouverez chaque mois la suite sur notre série sur l'histoire de Fun Radio. Et j'aurai à chaque fois à mes côtés Olivier Audoux pour nous raconter cette page importante de l'histoire radiophonique. Pour rappel, Olivier, tu es journaliste sur la lettre pro de la radio. Tu es aussi le créateur du site choup.fr, site consacré à l'histoire des radios FM.
En fait, en effet, les 20 ans de Choup cette année, on a désormais plus de 6000 radios référencées. Et pour l'anecdote, ma passion pour la radio et donc de la création de Choup, eh bien, elle est venue de Fun Radio.
Et le réseau Fun a connu des débuts chaotiques. Alors forcément, pour parler de sa création, on va devoir resituer le contexte. Le début des radios libres dans les années 80, l'autorisation de la pub en 1984 et par la même occasion, les énormes enjeux autour de la création de réseaux, de franchises. Et c'est au cœur même d'Énergie, un des plus ambitieux réseaux en devenir que va être créé Fun.
On a retrouvé l'un des trois fondateurs de Fun Radio. Il s'agit de Éric Péchadre. Éric a fondé en 1985 Fun Radio dans le sud de la France avec Pierre Lattès et Jean-Baptiste Blanchemain. Bonjour Éric.
Bonjour.
Pour planter un peu le décor, on est au début des années 80. Vous avez seulement 28 ans et vous êtes déjà entrepreneur à la tête d'une entreprise de 120 employés. Vous faites à l'époque des journaux gratuits, de petites annonces dans les grandes villes du sud de la France. Donc, deux jours après l'élection de François Mitterrand en 1981, vous décidez de revendre tous vos journaux gratuits pour investir dans la radio, alors même que la publicité n'était pas encore autorisée. Et donc, vous commencez à monter des associations un peu partout dans le sud de la France pour obtenir des fréquences un peu partout dans toutes les grandes villes. Donc, vous aviez commencé à monter des radios, mais vous ne pouviez pas encore faire de la publicité jusqu'en 1984.
Il faut savoir que quand on a créé des radios, nous, on a créé des radios pour être des supports publicitaires. On créait des supports de pub.
Et en 84, enfin, la publicité est officiellement autorisée, vos radios deviennent commerciales et vous développez enfin, de manière tout à fait légale, la publicité et sur votre réseau de radios dans le sud de la France.
Et surtout de manière très très rapide, parce que comme avant, j'avais un certain nombre de journaux gratuits, les directeurs de ces journaux m'ont quasiment tous rejoint et donc on a pu bâtir une force de vente quasiment immédiate qui nous a mis très nettement en avance.
Donc, vous êtes leader en termes de revenus publicitaires dans pas mal de villes sur lesquelles vous émettez avec vos radios indépendantes. Et alors, pourquoi vous décidez de vous rapprocher de Énergie ?
On avait quand même un peu épuisé nos moyens financiers en exploitant des radios et en les faisant vivre comme des radios assez professionnelles, parce qu'il fallait quand même être professionnel pour avoir de l'audience, donc avoir du bon matériel, avoir des bons compresseurs, des bons émetteurs, avoir des antennes bien placées, etc. Donc on avait quand même pas mal de frais. C'était des frais que je supportais en grande partie seul avec Jean-Baptiste. Au départ, les trois premières années, la pub n'était pas là, donc c'était à fond perdu en fait. Hein, c'était quasiment à fond perdu. Les recettes publicitaires, tant que la pub n'a pas été autorisée, couvraient 10 ou 15% de nos dépenses mensuelles. Donc c'était vraiment ridicule. Et on est arrivé un peu au bout du trésor de guerre de la vente des journaux gratuits. Et à ce moment-là, on s'est rapproché d'un groupe de presse quotidienne régionale du Languedoc-Roussillon, qui était Midi Libre, où on s'est associé avec eux dans le développement de la radio. Très rapidement, quand la pub a été autorisée, et que Midi Libre a vu que les commerciaux qu'on avait faisaient vraiment de l'ombre aux commerciaux de la presse quotidienne et aux commerciaux de leur presse gratuite. Je me souviens d'une réunion avec le président de Midi Libre à l'époque, qui m'a expliqué que bon, c'était très bien, mais qu'il fallait pas quand même qu'on en fasse trop, parce que ça allait être dommageable au budget des quotidiens. Mais moi, j'étais pas associé dans les quotidiens avec lui, j'étais associé dans la radio. On allait être bridé dans le développement du marché publicitaire et ça m'allait pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à, j'avais toujours un plein de fréquences dans des villes où j'avais des fréquences en double. Donc, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai vendu toutes les radios qui étaient en exploitation à Midi Libre. J'ai repris ma liberté vis-à-vis d'eux. J'aurais laissé toutes les radios qui existaient sous, à l'époque, c'était Radio Alligator à Montpellier, Radio Corail à Narbonne, Radio 11. Il y avait des radios un peu partout. J'ai repris ma liberté. J'avais préparé mon coup, en fait, en allant voir un garçon qui s'appelait Pierre Lattès, qui était le responsable du réseau, du développement du réseau Énergie. Énergie était certainement la radio qui était le plus sur ce que je sentais intéressant pour capter le marché publicitaire qui nous intéressait en local. On a rompu avec Midi Libre et là je suis retourné voir Jean-Baptiste en lui disant « Écoute, j'ai toujours une flopée de fréquences disponibles. Moi ce que je te propose c'est on va signer un contrat de franchise, de master franchise avec Énergie pour la partie sud, et on va lancer des stations énergie à partir des fréquences qu'on a. On a investi, on a lancé des énergies un peu partout, mais je rappelle qu'à l'époque, c'était toujours on recevait des playlists par fax, on avait des bobineaux d'énergie, on avait lancé des stations énergie un peu partout, mais qui étaient nos stations à nous, absolument pas celles de Boutrou.
Pierre Lattès était le responsable de la régie publicitaire de énergie au niveau national, voilà, en charge de développer le réseau, c'est ça? Voilà, et donc, il vous donne l'autorisation pour cette master franchise pour développer vos stations énergie dans le sud de la France. Voilà. Il s'étonne de vos très bons résultats en indépendant.
Il y croyait, il était pas surpris que ça marche, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il s'était battu pour qu'on ait une master franchise et non pas deux ou trois radios, parce que au départ, Boutrou voulait nous donner simplement Bordeaux, Toulouse. Bon, moi, ça m'intéressait pas de laisser le champ libre à midi libre. Et donc, je rencontre Boutrou qui m'explique qu'il est étonné de ce que lui raconte Lattès.
Et en fait, vous recevez une proposition en septembre 84 pour travailler à Énergie directement à Paris.
J'ai accepté sous deux conditions. La première condition, c'était que je garde toutes mes radios en province. C'était tous mes anciens directeurs commerciaux qui étaient à la tête de toutes les régions, donc ça m'allait très bien. Et c'était un beau challenge d'aller essayer de monter une bonne régie locale à l'époque, hein, parce que finalement, on cherchait à vendre de la pub pour Énergie Paris. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de pub nationale. C'est seulement après où on a commencé à vendre de la pub nationale. Mais au début, c'était surtout de la pub locale qui était vendue. Donc, ma condition, c'était je garde mes radios, je suis à Paris 4 jours par semaine. Et deuxième et troisième truc, je suis pas rémunéré, j'ai pas de fixe, tu payes tous mes frais, et ensuite de ça, je suis rémunéré avec un pourcentage du chiffre d'affaires que je ramène. Et on se met d'accord, je crois, sur 1% du chiffre d'affaires ou 2% du chiffre d'affaires. Alors, assez rapidement, moi, ce que j'avais suggéré à Boutrou, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui payaient pas leur franchise. Donc, ce que j'avais suggéré à Boutrou, c'était d'essayer de trouver quelques pubs nationales qu'on encaisserait dans tout le réseau. On obligerait les franchisés à diffuser dans tout le réseau, et en échange de quoi, ce serait pour nous, pour la tête de réseau, garderait l'argent.
Alors on arrive en mars 85, donc seulement 4 mois après votre arrivée, et là, clash avec Jean-Paul Boutrou.
Boutrou discutait pour nous proposer un pourcentage d'Énergie Paris si moi j'acceptais de lui céder mes radios. J'entendais absolument pas lui donner mes radios. D'abord parce que je pouvais pas. J'étais associé avec Jean-Baptiste Blanchemin à 50-50. Et Boutrou voulait pas vraiment entendre parler de lui. Donc, ça m'intéressait pas, quoi.
Donc, au final, on arrive en avril 85 et du coup, vous mettez un terme à votre mission à Énergie à Paris, c'est ça?
C'est Boutrou qui met un terme à la discussion qui s'éternise. Fin mars, il doit me faire un chèque qui doit correspondre à beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé de me payer à l'année. Et donc, là, il me dit, quand j'arrive un lundi matin ou un mardi matin, il y avait des vigiles à l'entrée d'énergie avenue Diana et on m'interdit l'accès de mon bureau. Et là, j'appelle Lattès, il me dit, oui, écoute, je suis embêté parce que tu comprends, Jean-Paul, il veut te mettre la pression pour que tu cèdes tes radios. Donc, il veut faire des actions contre toi. Il pense t'attaquer en détournement d'actifs parce que il dit que t'as volé sa radio, que t'as, heureusement, nous, on avait les contrats de franchise. Donc, mais le soir même, je remontais dans un avion et je me suis réoccupé de mes stations énergie de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Sète, etc., etc., quoi.
Ça dure quelques mois et puis au bout de quelques mois, vous comprenez que ça va être, même en restant indépendant, mais toujours en franchise énergie, ça va être compliqué parce que vous avez mis un terme à votre collaboration à Paris dans des termes un peu, compliqués. Vous commencez à monter un peu un projet, en fait, de monter un nouveau réseau indépendant avec votre marque.
On s'est dit, c'est le moment de monter, c'est le moment de prendre, d'arrêter ces conneries avec énergie. Nous, notre force en région, c'était qu'on avait des super équipes d'animateurs. On s'est demandé avec Jean-Baptiste, il faut qu'on crée un réseau de radio de toutes pièces, avec nos radios. On a préparé notre coup et on s'est dit, il faut de l'argent. Donc, on a d'abord essayé de monter un projet financier, puis on a trouvé l'argent. Et à partir de ce moment-là, les gens avec qui on a trouvé l'argent, on se dit, mais la radio, c'est des programmes, ça, c'est quoi les programmes? Parce qu'il faut que dans votre bande, il y a un manque, quoi. Quelqu'un qui sache ce que c'est que la musique et que la programmation. On se dit, on va tenter le coup, on va appeler Lattès. Parce que Lattès, ça faisait peut-être 3-4 mois qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Mais on savait, on entendait dire qu'il avait les boules parce que lui, ce qui l'intéressait toujours, c'était la radio. Donc, on appelle Pierre et là, on discute et lui, il s'excite comme un pou. D'abord, il avait une vision d'une ligne directrice au niveau de la programmation musicale qui était très intéressante. Et il avait un deuxième truc, qui était son hobby, qui était la formation des animateurs. Et qui était de dire, on gagnera parce qu'on aura une programmation musicale qui sera en avance, et on gagnera parce qu'on aura des animateurs qui seront plus malins, qui feront tous la même chose en termes techniques, mais ça se verra pas. Et donc, il était très attaché à la formation des animateurs. Et on lui a dit, écoute, nous, ce qu'on te propose, c'est faisons part à trois. Tu t'occupes de cette partie-là, Péchade s'occupe de l'argent, de la pub, et moi, je m'occupe du développement, dit Jean-Baptiste. On retourne voir nos capitaux risqueurs, à qui on présente le trio. Finalement, ils nous disent banco.
Et du coup, pourquoi le nom Fun, d'ailleurs?
Bah, le nom de Fun, ça a été une proposition. On avait de multiples propositions au niveau de l'agence de pub. On avait pensé déjà d'abord à Chic, qu'on n'avait pas déposé. Alors voilà, on a lancé une radio à Nice qui s'appelait Chic, et Chic FM, et qui était en fait le test de la radio qu'allait faire la thèse pour Fun. Personne ne savait que c'était nous qui avions Chic. Et puis finalement, on n'est pas parti sur Chic. La thèse a très vite compris comment il fallait faire. Notamment, il avait imaginé un truc qui était fabuleux, qui était comment passer plus de morceaux de musique dans une même heure avec des tubes. C'est-à-dire que on passait beaucoup plus de tubes que les autres en raccourcissant les couplets ou des refrains, de façon à avoir plus de musique. Et on avait aussi un autre système qu'il avait mis en place qui a été le premier à faire ça. C'est-à-dire quand les maisons de disques nous envoyaient des caisses de disques qui sortaient, qu'ils allaient sortir, on les testait. C'est-à-dire qu'on avait, je me souviens toujours, on avait une salle où on avait 8 ou 10 personnes au téléphone qui appelaient des auditeurs de la radio et qui leur disait on va vous faire écouter des disques et vous nous dites stop quand ça vous gonfle. Et donc on a formé cette espèce de task force pour être prêt un jour X. On avait fait une réunion 2 ou 3 jours avant à Agde et 2 jours après, donc le 2 octobre, alors on a basculé sans que les animateurs soient au courant. Ça a été assez hard quand même pour un certain nombre de gens. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on ait fait dissidence d'énergie. On a fait que récupérer notre bien. C'était nos stations. À un moment, on a changé de marque.
Dans la nuit du 1er au 2 octobre 85, vous dites en gros à tous vos animateurs, demain matin, ça va s'appeler Fun. Un nouveau slogan, tant qu'il y aura des piles. Et puis des tracts qui sont distribués dans la rue qui dit changer d'énergie sans changer de fréquence.
En fait, tout ça, c'était orchestré et préparé par l'ensemble des chefs de station, ville par ville. Quand on a distribué les tracts, je me souviens qu'il y avait des centaines de personnes dans toute la France qui distribuaient ces tracts. C'était pas les animateurs de radio. Donc, c'était, voilà, on a organisé notre lancement.
Et justement, on a retrouvé des jingles de l'époque, les tout premiers jingles de Fun. Écoutez. Voilà, des jingles de 1985 que vous pourrez retrouver sur choup.fr.
On a basculé 7 stations, je crois, qui étaient nos grosses stations en propre. Et puis, on a dû en rajouter très rapidement 12 qui étaient des stations qui n'étaient pas des énergies. Il y avait Chic à Nice, qui est devenu Fun. Il y a eu quelques autres radios. Grenoble, c'est une station à nous, donc qu'on n'avait pas ouverte. Donc, on a ouvert ce jour-là.
Quelle a été la réaction de énergie sur les 7 fréquences, du coup, qu'ils ont perdues?
Ils ont assez rapidement essayé de renégocier avec d'autres pour réinstaller des énergies en local, ce qu'ils ont fait. Ils ont réinstallé des énergies partout, en face de nous. Mais c'était pas gênant. De souvenir, on a eu très 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 peu de défections. Si, on a eu un type qui nous a quitté peut-être à Montpellier. Ça a dû arriver, mais c'était marginal. Et quand Baudecroux s'est réinstallé, ben, il a repris une part d'audience. Il n'y a pas eu de problème, hein. Mais c'est des stations qui sont restées très 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 longtemps, bien longtemps après mon départ, largement leader en termes de chiffre d'affaires sur chacune de ces villes.
Alors les premières années au niveau des programmes, donc pendant 1 ou 2 ans, pas de diffusion satellite. Il y avait notamment des personnes assez connues. Didier Sinclair sur Fun à Montpellier, Jean-Luc Reichmann sur Fun à Toulouse et aussi Julien Courbet sur Fun Bordeaux. On va d'ailleurs écouter un extrait tout de suite, un extrait d'une émission qui s'appelait Le Boogie Morning de Julien Courbet. C'était en 1986.
L'affaire des cobayes humains revient à la une. Après le scandale du protoxyde d'azote, dorénavant, les expériences au protoxyde d'azote seront effectuées sur des poupées gonflables. Elles ont l'habitude. Fin de citation. Salut! Le Boogie Morning, Courbet le brunch comme tous les matins et sa famille pour l'encadrer. Si vous aimez la bonne musique, vous avez choisi la bonne fréquence puisque Fun Radio vous proposera d'ici la fin de l'heure Crush, Jocelyne Béroir et Cassav, Robert Farel, France Gall, Jacques Bastello, Bonheur des Dames et Liam. Attention, nous dit Chédid, car à 8h30, ce sera l'astrophone pour lire dans la boule de cristal. Est-ce que je pourrais vous dire, c'est un message... Bon, allez, on va faire un petit peu de démagogie. Eh bien, voici mon message.
Roulez, roulez, jeunesse, à fond la caisse.
Alors c'est fou de se dire hein, que ça c'est Julien Courbet, c'était en 1986.
Quand on entend Julien Courbet à l'antenne, c'était tout ce que détestait Pierre. En fait, le vrai problème, c'est que ce que faisait Julien ou ce que faisait Jean-Luc à Toulouse, etc., etc., c'était des gens qui avaient une personnalité d'animateur. Mais la particularité de la thèse, c'était qu'en fait, on avait des commandos, des jeunes animateurs et des jeunes chefs d'antenne des stations initiales qui passaient leur temps à aller de ville en ville pour aller former les équipes d'animateurs sur place tant qu'il n'y avait pas de satellite. Donc tout ça, c'était c'était très organisé pour développer réseau. Donc les résultats en termes de chiffres, contrairement à ce qu'on disait à l'époque, en termes de chiffre d'affaires étaient assez satisfaisants, mais il nous manquait une radio à Paris, et une radio à Paris ça coûtait très 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 cher. Il nous fallait 30 millions supplémentaires qu'on n'avait pas. On essaie de se rapprocher de plusieurs partenaires pour trouver une fréquence à Paris. On se rend compte que ça va être très cher, ou on se rend compte surtout qu'ils vont avoir des prétentions de direction du réseau, de direction de l'antenne, de mainmise. On n'avait pas voulu le faire avec énergie, donc on a renoncé à ça. Et puis on a eu un espèce de coup fourré de nos capitaux risqueurs au départ, qui ont essayé de nous dire « on vous amène l'argent qu'il faut pour acheter la radio, mais vous allez baisser votre participation et vous allez la donner à l'associé qui va amener l'argent ». Et au dernier moment, on a découvert que l'associé auquel ils avaient pensé pour apporter l'argent, c'était Europe. Et nous, on n'y tenait pas spécialement. Donc, à partir de ce moment-là, on a établi une stratégie avec nos conseils qui a été d'essayer d'écarter nos capitaux risqueurs. Alors, c'est pas facile dans une société quand des gens ont 30% du capital. On a fait à l'époque quelque chose qui était assez osé, c'est-à-dire qu'on a déposé le bilan de Fun Radio. On s'est rapproché d'un groupe important qui était le groupe Ersan. Ils avaient surtout une radio à Paris qui s'appelait Chic FM. Oui, ils avaient repris la marque qu'on avait malencontreusement oublié de déposer à l'époque et que Robert Ersan a repris. On a conclu avec lui, on a un pré-accord, on a déposé le bilan et on a réussi un retournement, donc à se séparer de nos associés qui eux-mêmes ont été dédommagés par le groupe Ersan. On a déposé le bilan, mais l'intégralité de tous les fournisseurs qui ont été plantés par le dépôt de bilan ont tous été payés et le plan de remboursement du passif a été assuré à 100%.
Donc vous fusionnez les deux réseaux et vous gardez le nom Fun et vous vous installez à Neuilly-sur-Seine dans les anciens studios d'Eddie Barclay qui étaient les studios de Chic FM.
Voilà, absolument. C'était Pierre Lattès qui a été au courant des programmes. Quand il était à Paris et qu'il faisait ses programmes pour les radios de province, c'était assez facile à gérer finalement. Mais quand il a été à Paris en contact permanent avec les animateurs qui étaient là, c'était assez difficile. Un des animateurs phares de l'époque, c'était Nagui, sur Chic. Il a jamais voulu travailler avec Nagui, qui était un garçon super. C'était pas la radio qu'il voulait faire. Au bout d'un certain temps, il y a eu une rivalité entre Jean-Baptiste, qui avait compris à quel point les animateurs faisaient partie intégrante du succès de l'antenne, alors que pour Pierre, le succès de l'antenne, c'était d'abord le programmation musicale.
Pierre Lattès, c'était un petit peu, ses conseils d'animation, c'était un petit peu des speaks de pas plus de 30 secondes, une seule idée par intervention, etc.
C'était absolument ça. C'est pas toi la vedette, c'est ce que tu passes. C'est pas faux. Mais par contre, l'assaisonnement, c'est l'animateur. Il y a eu un clash entre Jean-Baptiste et lui à l'époque. Moi, j'y ai peu participé, mais je sais que je suis rentré un jour, je suis revenu un lundi matin et on m'a dit bon bah écoute voilà c'est fini, la thèse dégage, etc. Max Reynaud, qui était un chef d'antenne de Carcassonne, qui avait beaucoup tourné avec Pierre, etc., qui a repris la main sur la programmation musicale, mais il était complètement sous l'autorité de Jean-Baptiste qui lui s'occupait de l'antenne.
Alors on va s'écouter peut-être un jingle de cette époque. Donc c'était en 1989, c'était le top horaire de Fun Radio à l'époque. Le slogan, c'était la meilleure radio.
Alors, un top horaire de 1989. Et en 1989, Ersan appelle un nouveau dirigeant à son bord, Benoît Sillard.
Quand on est arrivé à Chic, il y avait un patron du groupe Ersan qui était là, qui était un super administratif, qui s'appelait Daniel Vaucan, qui est parti, je sais plus trop dans quelles conditions, et alors qu'on s'entendait à arriver, à voir arriver quelqu'un qu'on connaissait et avec qui on avait des atomes crochus, on a vu arriver Benoît Sillard. Moi, j'avais rendu un rapport pour expliquer qu'on était tout seul, on était isolé sur le marché de la pub. Le marché publicitaire local, on l'avait. Donc, maintenant, on est en train de se battre avec le satellite sur le marché publicitaire national. Et autant sur le marché publicité local, je pense que j'assurais tout à fait, autant sur le marché publicitaire national, j'avais pas de prétention de connaître ce marché et de le travailler et de l'optimiser. Et pour ça, les régies nationales, c'était à l'époque IP pour RTL, régie numéro 1 pour Europe. Donc l'idée, c'était de se rapprocher d'eux pour vendre des couplages. Ersan, qui a commencé à en avoir marre de perdre de l'argent tous les ans. Donc moi, j'ai commencé à rencontrer les autres régies. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient intéressés et il y a des gens qui semblaient plus intéressants que d'autres, c'était RTL. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas pris le virage de la FM. Ils étaient partis beaucoup plus tard que Europe 1. J'ai fini par rendre mon dossier en disant, voilà, s'il y a un partenaire avec qui on a des chances de s'entendre. Moi, je commençais déjà à avoir un peu d'autres idées et d'autres projets. On cherchait un bon partenaire pour l'avenir pour la radio. Et finalement, on s'est rapproché, la décision a été prise de se rapprocher avec RTL et de fusionner la régie, de faire absorber la régie Fun par IP. IP, c'est-à-dire Havas, hein. Sillard est arrivé, disons, dans l'année qui a précédé la session. Mon désengagement à moi, il était déjà acté. Moi, je m'occupais de mon boulot qui était de vendre, de faire marcher la régie et de faire rentrer de l'argent. Donc, Sillard est arrivé, c'est assez vite chauffé avec Jean-Baptiste. Et donc, quand ça a été vendu avec RTL, ça a été le moment où on est sorti, en fait, à quelques mois d'intervalle.
Fun Radio s'est développé dans les pays de l'Est à la fin des années 80. C'était sous votre direction ou c'était sous Sillard?
Oui, non, c'était on avait un garçon qui était un chef d'antenne, Didier Sola, qui était chargé de développer Fun dans les pays de l'Est. En fait, il était surtout chargé d'aller trouver des gens qui acceptaient nos émetteurs. Et à qui on envoyait des disques, c'était notre action de charité, on savait absolument pas ce qu'ils faisaient, hein. Donc c'était vraiment, que ce soit en Pologne, ou que ce soit en Tchécoslovaquie, ou que ce soit en Roumanie, on a fait le lancement de Fun, je crois, à Varsovie, ou à Cracovie. C'était mémorable, quoi. C'était vraiment, après, quand le dictateur local a été mis dehors, on a lancé très rapidement Fun, et là j'étais encore là. Mais j'étais déjà à RTL, hein. J'étais déjà à IP, je veux dire. J'étais plus dans la radio. La radio, à partir du moment où moi j'étais, où la décision de vente avait été faite, je m'occupais plus vraiment du produit, quoi.
Bah, en tout cas, on parlera en détail de la nouvelle vague de programmes mis en place sous la direction de Benoît Sillard dans la suite de l'histoire de Fun Radio dans Des Ondes Vocastes. Merci Eric d'être intervenu et de nous avoir raconté en détail la création du réseau Fun.
À bientôt. Au revoir.
Si vous souhaitez écouter la suite de cette série, la deuxième partie est dans le prochain épisode. Et sachez que la suite est déjà disponible sur Des Ondes Vocastes Premium. Et d'ailleurs, exclusivement au sein Des Ondes Vocastes Premium, il y a aussi 20 minutes d'extrait de Fun Radio daté de 1991. Absolument inédit. Pour devenir membre, c'est seulement 1€ par mois sans engagement. Et cela permet de montrer votre soutien au projet Vocast. C'est très simple, rendez-vous sur premium.vocast.fr. C'est la fin de cet épisode Des Ondes Vocastes, le podcast sur le secteur de la radio. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En voix off, Estelle Hubert, et pour les crédits musicaux, c'est bien entendu toujours un clin d'œil au film Radio Star. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, n'hésitez pas à montrer comment on peut s'abonner facilement au podcast, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Et puis sur notre site web, vocast.fr, vous retrouverez des liens vers les articles médiums complémentaires sur l'innovation en radio. Et puis via le menu bonus, vous pouvez accéder au résumé en story, consulter le système de pige horaire de plus de 200 radios. Le prochain épisode des Ondes Vocastes sera disponible à l'écoute au plus tard dimanche 2 août 2020. À très bientôt, ciao.
Des Ondes Vocastes.